la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
Zanashim, domen mie zahrata, zanashim, domen mie.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive le soleil.
Vive
les oreilles.
Libre.
We'll be right back.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs et dans le monde entier à Chambéry, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Aujourd'hui, nous recevons un collectif, le collectif Mineur de Fond, avec dans notre studio Vincent Duchosel et Thibaut Gomez. Bonjour.
Bonjour Christophe.
Alors, ma première question dans toutes les émissions, comme ça je me prends pas la tête, c'est quelle a été votre formation musicale et peut-être où avez-vous eu cette formation musicale?
Voilà, c'est Thibaut. Ouais. Moi, j'ai commencé à Chambéry justement. Et puis après je suis allé 2 ans au conservatoire de Lyon où en parallèle j'étais encore à Chambéry en piano classique, direction de chœur et piano jazz. 2 ans à Lyon avec du jazz et ensuite je suis parti en Espagne. Après je suis rentré à Paris, au conservatoire de Paris, en classe jazz et musique improvisée. Puis ensuite je suis allé au Danemark, à Copenhague, dans une école incroyable qui s'appelle RMC, où c'est très ouvert, pas mal de musique improvisée mais aussi beaucoup de pop rock, avec une pédagogie bien danoise. Et puis, j'ai terminé mon master ensuite à Paris il y a 1 an, là, à peu près.
Voilà. D'accord. Et toi, Vincent ?
J'ai commencé en Haute-Tarentaise, en Savoie, où j'ai fait la guitare classique. J'ai continué au conservatoire de Chambéry, où j'ai fait aussi un peu de direction de chœur. J'ai commencé le jazz. J'ai continué au conservatoire de Lyon. Et ensuite, mon point de chute, ça a été Paris, avec le Pôle Sup de Paris, où j'ai terminé mon cursus en jazz, musique improvisée. Et voilà.
Alors, le collectif Mineur de Fond est né visiblement à Chambéry, mais certains d'entre vous semblent, vous deux en tout cas, vous êtes venus à Paris. Est-ce que le collectif, il est basé où en fait maintenant ?
Disons que les activités, on s'est retrouvés à Paris parce qu'on avait nos études toutes et tous en fait sur Paris, ouais. Bien qu'on se soit rencontrés à Chambéry auparavant. Ouais. Donc finalement, on se voit beaucoup plus à Paris qu'en Savoie, même si on a toujours l'envie de monter des projets autant à Paris qu'en Savoie. Donc c'est quand même à Paris que les choses se conçoivent, quoi.
Ouais. Alors pouvez-vous expliquer le nom du collectif et notamment le fait que vous défendiez un art mineur ?
Mineur de fond, c'est venu d'une idée d'une personne qui est dans le collectif aussi, qui s'appelle Paolo Gauthier, et qui était un grand fan de Claude Nougaro. Alors c'est pas forcément qu'on est sous la...
On s'identifie pas forcément,
à Nougaro, mais le texte est très beau, et peut-être que Vincent, tu peux
nous le lire. Ouais. Je pratique l'art mineur qu'a illustré le beau Serge. Puisse-t-il, sur l'autre berge, s'enivrer d'alcool meilleur ? Est-ce bien sérieux d'ailleurs, passer les 60 berges, de pratiquer l'art mineur qu'a illustré le beau Serge? Pourquoi suis-je et à quoi sers-je? Dans la mine où je m'immerge, charbon rouge de mon cœur, un projecteur sur le front comme au casque du mineur, artiste mineur de fond.
Ah oui, donc Serge en question,
C'est Serge Gainsbourg.
Ben oui.
Il fait référence à Serge Gainsbourg qui défendait l'idée que la chanson était un art mineur, ouais. Tandis que la musique classique savante était un art majeur, la peinture était un art majeur. Voilà, il disait que...
Ah oui, mais alors, mineur de fond, est-ce que vous reprenez cette idée à votre compte ?
Non, pas vraiment.
Ce qu'on reprend, c'est l'idée que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on conçoit en termes de musique, c'est à notre mesure et qu'on ne la considère pas comme quelque chose en soi de majeur, mais plus comme un vrai endroit de recherche et de partage, sans trop de prétention non plus.
Et d'aller un peu chercher... c'est aussi l'image un peu naïve de la mine, quoi. C'est d'aller chercher un peu dans nos caves à nous, dans les caves... dans nos mines. C'est un peu imagé, mais ça veut dire pas mal pour nous, parce que ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un désir de vendre notre musique à tout prix, de partout, de rentrer dans les grandes lignes qu'on peut connaître... de la vente de la musique. Donc après ça va avec des décisions de comment est-ce qu'on monétise notre musique, par exemple, comment on la présente, à quel public, essayant un peu de pousser un peu les bords de nos mines respectives. Ouais.
Alors, sur votre site, j'étais assez surpris. Il y a un texte racontant l'histoire du collectif, mais avec des noms tronqués, ce qui le rend un peu difficile à comprendre, en fait, ouais. L'histoire, au premier abord. Mais après, à la fin du texte, il y a une espèce de traduction, enfin ouais. d'explicitation de ces noms tronqués, on va dire. Et quand on relit le texte, on comprend mieux. Et pourquoi cette drôle d'idée, quand même ?
L'idée, c'était de raconter notre histoire et d'en faire un conte, quelque part, ouais, avec ouais. Finalement aussi un langage singulier. Ouais. Ça a été écrit par Paolo Gauthier, qui fait partie du collectif, ouais. Donc avec son écriture bien singulière et bien à lui. Donc l'idée, c'était de recréer une fable à partir de nos histoires et de comment le collectif est né et comment nos aspirations se sont rencontrées, en fait, à ce moment-là, quoi. Et finalement, ce qu'on aime bien faire, c'est raconter des histoires ouais. avec la musique, avec des textes aussi, quoi.
Oui, ouais, bien sûr. Mais je vous ai même pas demandé comment s'est créé le collectif, finalement. Qui en a été à l'origine ? Parce que...
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est que des vieux et vieilles amis de Chambéry, parce qu'on a fait tous le même lycée, à peu près. Et c'est venu, c'était il y a quoi, il y a 4-5 ans ? 6 ans, ouais, 6 ans. On commençait un peu, on était perdus, puis on avait envie de s'organiser un peu ensemble, parce qu'on voyait que de tout mener de front seul, c'était pas forcément marrant et pas forcément c'était pas forcément créatif de faire tout seul. Enfin, c'est un peu la vie qu'on a, je crois. Et du coup, d'apprendre à faire ce métier qui est très complexe. C'est même pas le métier de musicien dont je parle. C'est ouais, le métier d'artiste, c'est un peu pompeux, mais comment est-ce qu'on se présente, justement, ce dont je parlais tout à l'heure, et puis comment on développe des projets, comment on va trouver un peu d'argent si on en a besoin, comment on communique, puis parfois, certaines n'ont pas forcément le temps, alors du coup, on se passe la balle, donc c'était l'occasion de faire ça ensemble, de boire des canons aussi ensemble plus régulièrement, du coup, et puis parce que je crois qu'on s'adore toutes et tous, donc... On aime bien rêver ensemble à des choses musicales ou pas, d'ailleurs.
Et aussi en créant des espaces, nos espaces de diffusion à nous, où on peut vraiment essayer de trouver des conditions qu'on a choisies avec un rapport à la musique et autres qu'on a choisies. Donc c'était un moyen de s'organiser à plusieurs pour faire aussi organiser des concerts, organiser des soirées.
Oui, bien sûr. Alors, mais justement, vous parlez d'organisation. Concrètement, est-ce qu'il y a un directeur artistique ? Est-ce qu'il y a une direction collégiale, des assemblées générales ? Comment ça fonctionne ?
On fonctionne en collectif. Il n'y a pas de direction en une personne. À chaque fois qu'on veut, on a une idée, on essaie de se rassembler, de faire un dîner, d'en discuter. Et après, on essaie de se répartir au maximum les tâches pour mener à bien cette idée-là. Pour que chacun ait sa place. Donc voilà, c'est à chaque fois en collégial. Ouais. Et on se dispatche des choses si besoin, et on a des discussions vraiment collectives. On essaie de savoir au maximum pour décider en collectif.
Mais du coup, par exemple, je sais qu'il y a Violette Gillet, qui est la présidente, entre guillemets, de notre collectif. C'est quelqu'un qui a fait des études d'histoire de l'art, mais qui est aujourd'hui dans un autre domaine professionnel. C'est quand même quelqu'un qui va organiser... qui va être motrice de, par exemple, elle avait organisé une exposition dans une galerie à Bastille. C'est elle qui était, comment on dit déjà,
curatrice.
Là, on organise notre festival cet été. Elle a fait plein de propositions musicales ou extra-musicales aussi. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout quelque chose de, il y a 4 musiciens dans le collectif et le reste, ça va être de l'administratif et vous allez faire nos cachets ou je sais pas quoi, nos budgets. Non, c'est vraiment tout le monde peut faire à peu près ce qu'il a envie.
Ouais.
C'est vraiment ça l'idée.
Et c'est, donc c'est vous avez fondé, comment on dit, une association ?
Oui, tout à fait.
D'accord. Loi 1900.
Alors l'association, elle est sur les coups, sur des statuts qui sont des statuts classiques d'association avec un bureau. Et on a commencé à soulever la question de continuer en collégial. Donc ça, c'est une vraie question qu'on va se poser plus concrètement là, les mois
prochains. À la rentrée, je pense.
À la rentrée.
D'accord. Tout à fait. Ouais. Je propose qu'on écoute de la musique quand même. Alors le groupe s'appelle Colm et le morceau Sur le fil de... Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au collectif Mineurs de Fond, avec Vincent Duchosal et Thibaut Gomez. Alors Vincent, peux-tu nous présenter les musiciens de Colm qu'on vient d'écouter et nous dire comment s'est créé le groupe, qui en est à l'origine?
Alors les musiciens, donc Adrien Dess à la batterie, Loïc Vergniaud aux clarinettes et moi-même à la guitare. Ce groupe existe depuis, je pense, 5 ans. Je n'ai pas été le premier guitariste de ce groupe. Moi, je les ai rejoints il y a 3 ans. Et donc, ils m'ont appelé. On ne se connaissait pas bien. Et donc, Loïc m'a appelé. On a essayé de jouer le répertoire qu'il jouait jusqu'alors parce qu'il y avait une tournée qui était prévue juste après. Et ça a tout de suite collé. Et donc, on a commencé par jouer l'ancien répertoire de ce groupe qu'on a fini au bout de quelques semaines à peine. À exploser et à vraiment réécrire à partir des compositions initiales. Moi, j'ai rapporté aussi des compos à moi. Et donc, finalement, on a recréé un trio il y a 3 ans. Et on a recréé notre musique et on a enregistré il y a 2 ans à la Fraternelle avec Anaïs Georgel pour essayer d'ancrer un peu cette musique qui était nouvelle pour nous, quoi.
Voilà. Et alors, justement, quelles sont les idées esthétique, on va dire, votre direction musicale, c'est quoi?
Elle se situe, j'ai l'impression, entre vraiment un trio rock et, disons, la musique plus chambriste. On essaie de jouer autant sur les sons acoustiques des instruments et les méthodes, les techniques étendues d'instruments, sans effet, acoustiquement, qu'avec beaucoup d'effets et quelque chose de beaucoup plus électrique. Donc, on a beaucoup été inspiré au départ par le trio Jean-Louis, avec Aymeric Avis,
on connaît bien,
Joachim Florent, qu'on a beaucoup écouté. On a aussi nos influences respectives dans le domaine du rock, des musiques dites contemporaines, des musiques vraiment acoustiques aussi. Et finalement, on a ramené tout ça et on a essayé de faire un mélange de tout ça avec beaucoup de groove quand même dans cet album-là et des plages d'impro. Et en même temps, on a essayé de rechercher des sortes de mélanges d'orchestration, on peut dire, d'essayer de trouver des petites trouvailles d'orchestration entre nos 3 instruments.
Voilà. Ouais. Et alors, qui compose? Vous composez tous les 3?
Oui, tout à fait.
Ah ouais, super. Ouais. Et alors, tu parlais justement des faits et tout ça. Est-ce que tu peux nous parler de ta belle guitare que j'ai eu l'occasion de voir une fois?
La guitare. Donc c'est Laurent Huchard, un luthier qui est à Oyonnax, dans l'Ain, qui m'a fait cette belle guitare. Donc je suis très content. Qui est une guitare inspirée des modèles Telecaster, en fait, avec des micros de simple bobinage, des micros de rock. Et voilà, moi je l'ai eu il y a 5 ans, cette guitare-là, et j'essaie de l'utiliser d'abord sans effet, essayer d'en extirper les moindres sonorités, un peu les harmoniques, essayer de frotter les cordes, essayer de trouver quelque chose de très acoustique dans cet instrument qui est à la base vraiment fait pour le rock, quoi.
Ouais, ouais.
Et c'est Laurent donc, qui travaille hyper bien, qui a plein de trouvailles sur les instruments.
Mais tu utilises quand même un peu des effets dans pas forcément ce groupe-là, mais...
Oui, tout à fait, dans des contextes. Ben, par exemple, avec un groupe que j'ai qui s'appelle Zozio,
Où
on s'inspire de musique de l'île de la Réunion. Là, j'essaye d'intégrer aussi... on essaye d'intégrer des effets, et notamment avec la guitare. Donc, des effets delay, distorsion, la frise par moment aussi, le truc qui gèle le son, littéralement. Moitié.
Et alors moi j'ai eu l'occasion de voir Zozio à l'Odéon là devant le théâtre de l'Odéon en soutien aux intermittents.
Ouais.
Et alors donc vous chantez en créole en fait?
Avec Zozio on a commencé par faire des reprises de musique qu'on a beaucoup écoutées. Donc cette fois-ci donc effectivement avec des textes en créole. Et là, on essaye justement de sortir et de faire que des compositions où on va écrire des textes uniquement en français.
Ah, d'accord.
En français, ou alors il y a une composition de Climène qui est en turc, mais on va pas écrire des morceaux en créole. Pour pas tomber dans quelque chose qui se réapproprierait une culture dont nous sommes pas issus, quoi.
D'accord. Et alors Louis Prado et Benoît Joblot qui sont dans ce groupe, la Zozio, font partie du collectif 2035.
Oui.
Donc, vous avez des liens avec d'autres collectifs, me semble-t-il. 11h11, il me semble également, ou Loup.
Oui, le Loup collectif. On avait déjà joué avec des groupes du collectif Nord de Fond dans les soirées Loup collectif.
Dans les soirées Loup,
ouais. 11h11 par Maëlys Marron, avec qui on travaille depuis un an et demi. Donc c'est vrai qu'on se fait des liens. Et 2035, des liens qui sont amicaux depuis plusieurs années. Aussi des moments passés, des sessions de musique qu'on a fait avec certaines des musiciens du collectif, quoi, effectivement. Et on se suit, en fait, on se voit régulièrement, enfin, on se voit de temps en temps avec ce collectif-là, ouais.
Il n'y a pas de concurrence entre collectifs, tout va bien.
Non, je crois pas.
Alors, je propose qu'on écoute maintenant le Thibaut Gomez Quintet, et le morceau s'intitule « Tu regardes la télé ». Voilà, c'était le Thibaut Gomez Quintet, Tu regardes la télé. Et j'ai omis de dire en début d'émission qu'on avait également écouté le Thibaut Gomez Quintet. Le morceau s'intitule Taram Tadadam. Waouh, je l'ai bien dit là. Alors Thibaut, pareil, même question. Peux-tu nous présenter les membres du quintet qui portent ton nom?
Alors il y a Benoît Joublot à la batterie, Pierre-Marie Lapron au saxophone, Étienne Renard à la contrebasse, qui fait également partie du collectif, et Benoît aussi qui en faisait partie, maintenant qui a intégré 2035, il voyage un peu, et au trombone c'est Robinson Coury.
D'accord, donc là c'est toi qui compose.
Oui.
Quelles sont tes idées, les idées que tu mets en œuvre dans ce quintet?
En fait, il n'y a pas une idée, il y a plusieurs idées. Par exemple, j'oscille un peu entre des choses, là comme on vient d'écouter par exemple, qui sont pour moi très ludiques, C'est-à-dire que là, pour la petite histoire, c'est, je me suis amusé à écrire un zapping, d'où le nom du morceau « Tu regardes la télé ?» point d'interrogation. Il y a la suite de ce morceau qui est en cours d'écriture qui s'appellera « Tu regardes encore la télé ?» point d'interrogation. Donc c'est vraiment l'idée de zapping. Là, en l'occurrence, sur ce morceau, c'est ce que je raconte un peu en concert, c'est... On s'est tous et toutes retrouvés déjà devant la télé à zapper et à tomber sur des trucs d'un seul coup très violents, d'un seul coup très inintéressants, d'un seul coup insupportables, des gens qu'on déteste, des gens d'un seul coup qu'on adore, un beau paysage, alors on va rester un peu devant, puis on va zapper comme ça pendant un certain temps. Donc là, c'était un peu l'idée de mettre ça en musique. Donc c'est pour ça que ça passe du tout au tout très rapidement. Après, le premier morceau, là, Talam Tadadam, là, c'est vraiment, pour moi, un peu plus dans l'esthétique jazz actuelle. C'est-à-dire qu'il y a l'utilisation du piano préparé, c'est très rythmique, c'est une écriture qui est assez dense. Il y a un thème qui est facilement identifiable, plus une rythmique qui accompagne ce thème. Bon, après, il y a des connexions qui se font entre les deux, mais voilà, qui est une écriture un peu plus, qu'on connaît déjà un peu mieux. Ouais. Et après, ça dépend vraiment du moment de quand j'écris. Des fois c'est très réfléchi, des fois absolument pas. Des fois j'écris des choses qu'on garde pas. Des fois je veux pas garder des choses qu'on garde. Enfin c'est assez anarchique dans la conception et dans le choix des morceaux qu'on joue.
Tant mieux.
Tant mieux.
Et parlons un peu de ton jeu. Tu l'as un peu évoqué. Tu utilises ce qu'on appelle des techniques étendues.
Oui. Ouais, bah là en l'occurrence ouais c'est le piano préparé qui commence, qui a maintenant des belles heures derrière lui, parce que je suis absolument pas le premier à utiliser ça, mais si on prend une minute pour parler de ça, je pense que la personne la plus connue c'est John Cage, qui est considéré comme l'inventeur, mais en fait quand j'avais fait une petite recherche c'était pas vraiment lui le premier, mais bon après c'est pas très intéressant de savoir qui est le premier ou la première, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a connu. Puis aujourd'hui, c'est un instrument qui est beaucoup utilisé en musique contemporaine, musique improvisée, et de plus en plus en jazz, en pop aussi, notamment en Allemagne. Il y a vraiment des pianistes qui utilisent ça pour faire des sortes de musique répétitive, parce que c'est très flexible comme instrument, parce qu'on a quand même de base le piano, avec les sonorités qu'on connaît, et en plus on peut aller chercher un peu les recoins du piano, tous les sons, parce que c'est le piano quand même à la base c'est une énorme boîte de résonance très bien faite avec une palette de cordes très étendue, donc c'est vrai que les possibilités sont énormes, pas infinies mais sont énormes, et par exemple en France je sais qu'on a des super artistes qui utilisent ça de manière magistrale. Je pense à évidemment Evry Sœur, je pense aussi à Alviz.
Sylvia,
qui a un concept magnifique où lui, carrément, il démonte cette boîte de résonance, la table d'harmonie, et il accroche d'autres cordes de piano aux cordes actuelles de la table d'harmonie pour danser au milieu, pour les faire résonner. Enfin, c'est très créatif, il y a des supers idées. Et c'est pour citer que, mais il y a vraiment plein.
Je peux t'aider un peu, il y a Sophie Agnel, Frédéric Blondy,
Benoît Delbecq, ouais.
Aussi. Oui, voilà. Ouais. Mais ils ont tous des techniques différentes. C'est d'ailleurs, tu vois, Evry Sœur, le dernier concert que j'ai vu, c'était Evry Sœur. Elle aime bien faire des sons percussifs, par exemple.
Ouais. Mais alors, ça, c'est son dernier.
Parce qu'il y a aussi l'histoire de Libo. Alors, comment expliquer
l'archet électronique.
Ouais. Ouais. Et il y en a beaucoup qui utilisent ça. Quoi. Ouais. Et donc, toi, c'est quoi,
qui utilise beaucoup. Mais Eve, par exemple, c'est un bon exemple. On se connaît assez bien. Son premier album qui s'appelait Pas sur la neige, c'était beaucoup dans le piano aussi.
Ah oui.
En anglais, on dit vraiment inside the piano. Donc, c'est vraiment d'aller gratter des cordes, d'utiliser des maillots, des baguettes pour aller gratter les cordes. Par exemple, Benoît Delbecq, lui, il va vraiment jouer du piano de manière traditionnelle avec une préparation à l'intérieur. Ouais. Moi j'aime bien osciller entre les deux, du coup j'ai une préparation qui est très flexible, c'est-à-dire que par exemple notamment j'utilise très peu de métaux parce que ça peut aussi un peu abîmer l'instrument, et puis il y a surtout des salles qui n'acceptent pas, Donc des fois c'est compliqué, c'est très frustrant. Mais je suis un peu entre les deux et ça va dépendre aussi des contextes. Avec mon quintet, j'utilise quand même beaucoup le clavier du piano pour faire sonner les préparations. Même s'il y a quand même 2-3 morceaux qu'on n'écoutera pas là, mais où vraiment je vais aller dans le piano pour chercher le maximum de résonance, des sons, en tapant par exemple, au 4 du piano qui a une résonance incroyable, au bois, d'utiliser le bois de la table d'harmonie pour faire résonner des objets, des diapasons, des choses comme ça. Et notamment par exemple les hibos, archets électroniques qui sont assez magiques avec le... Ouais. Le piano, qui sont normalement utilisés pour la guitare, et maintenant qui est utilisé pour le piano aussi, ça donne une espèce de son comme ça d'orgue, avec le registre flûte, très très froid et très très lisse. Et ça ressemble presque à un synthétiseur, et en même temps, on ne sait pas trop. Donc j'oscille un peu entre les deux.
Ah, d'accord. Oui, voilà. On aurait pu citer Alexandre Duclosel également.
Alexandre,
bien sûr.
Alors, qui est un peu plus violent avec les pianos que moi. Mais on adore.
Et alors, j'ai vu que tu jouais aussi des œuvres classiques, me semble-t-il. Hein, il me semble avoir vu que tu jouais Eric Satie. Alors, ce n'est pas forcément commun, beaucoup de musiciens sont issus du classique. Hein, ils ont commencé en classique, mais dès qu'ils arrivent dans notre émission, ils sont jamais dans notre émission pour le classique, donc ils ont dévié, ils ont fait des choses bizarres. Mais c'est rare qu'ils reviennent au classique. Et ma question, je voulais que tu m'en parles de ça, mais je crois qu'il n'est pas évident d'être accepté dans le milieu du classique quand on s'en est écarté, quand on a fait d'autres choses, non ?
Est-ce que je me... Ouais, moi je ne me suis pas vraiment posé la question parce que je pense qu'effectivement, je me le suis un peu interdit. Mais aussi parce que les conservatoires classiques, c'est quand même c'est lourd, quoi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé ces années, et en même temps, il y a eu toute une reconstruction après à faire aussi. Et j'ai eu des super professeurs, et j'en ai eu aussi des moins super. Mais voilà. Et après, c'est vrai que vu qu'il y a cette idée d'excellence en classique, où plus on est jeune, plus on est fort, mieux c'est. On se sent assez vite écarté, et c'est pour le meilleur parce que finalement je me sens très bien dans les musiques avec lesquelles je deal aujourd'hui. Après, en l'occurrence, Satie, là, c'est un projet que c'est pas mon projet, j'ai enregistré pour Pierre-Jean Gaucher. Donc, effectivement, il y a 2-3 partitions que j'ai apprises presque telles quelles d'Eric Satie. Eric Satie, c'est pas le compositeur qui utilise le plus la virtuosité, donc. Ça ne demande pas un travail dingue. Et voilà. Mais là c'est, l'album s'appelle Zap Satie. Parce qu'en fait, Pierre-Jean, c'est un fan de Frank Zappa.
Ah oui.
Il avait déjà fait un album il y a 20 ans de Zap Zappa. Et donc là, il a fait Zap Satie. Pardon. Je vous conseille, c'est assez, assez marrant, burlesque. Et en même temps aussi très beau, très, très sincère. Mmh. Mais oui, le classique, c'est vrai qu'on... Moi, j'en retravaille depuis 4-5 ans pour moi, parce que ça m'intéresse et parce qu'il y a des choses qui sont super. Et je crois que tout le monde, enfin, je sais que Vincent, t'en travailles aussi à la guitare, que ce soit de la musique baroque, parfois renaissance et parfois très moderne, parce qu'en fait, c'est un peu un grand baluchon dans lequel on peut aller chercher les choses qui nous intéressent. Près de là, faire un concert de piano solo en classique, je pense pas que ce soit pour demain. C'est pas prévu.
D'accord. Alors, il y a une phrase dans ta bio, là, qui est sur votre site, très très beau site d'ailleurs, qui m'a beaucoup interpellé. Ah non, alors, je sais pas, c'est pas vous sur votre site, c'est sur ton site à toi. Tu dis que tu es intéressé par la liberté de création et la créativité de chacun, dans l'art ou non. Alors, je me suis demandé si ça avait un rapport avec l'art brut. Est-ce que tu peux expliciter ?
Ouais, ça vient un peu de là. C'est sûr que ça vient un peu de là. Je pense que ça a été un moment... Je me souviens quand j'avais écrit cette bio. En plus, je confondais parce qu'il y a une citation de Rilke juste avant. Mais c'est un peu l'idée de se dire... ne nous interdisons pas de faire de l'art, quoi. Parce que moi, je sais que, par exemple, avec mes études de conservatoire, c'était très facile de jouer du piano. Par contre, de faire toute autre chose, du dessin, de la danse ou quoi, c'était très compliqué. Il y avait le troisième œil qui se ramenait à chaque fois et qui disait non, c'est pas pour toi, c'est interdit, parce que tu sais pas faire. Alors qu'en fait, En fait, c'est faux, on se met évidemment des limitations, et notamment l'art brut, effectivement, c'est un super exemple. Enfin, moi, c'est une des formes d'art qui me touche le plus. Je pense, je suis pas encore allé au musée à Lausanne, mais je suis tombé sur le gros bouquin là, qui présente un peu tout. Je peux y passer des heures, c'est complètement incroyable. C'est une espèce d'expression. Enfin, je vous conseille, si vous n'êtes pas proche de ça, mais une expression très sincère et dans l'intuition. Et c'est vrai que moi, ça me plaît beaucoup. Et aussi d'essayer d'un peu de lâcher de contrôle, voilà, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit souvent. Mais, et puis de dire un peu que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait 10 ans de piano dans ta vie que tu ne peux pas jouer de piano, ou tu ne peux même pas monter un groupe, ou tu ne peux pas enregistrer un album, ou tu ne peux pas avoir un avis sur la question, sur l'instrument, sur ce qui te plaît ou pas. Enfin voilà, c'est pas intéressant, quoi. C'est de penser comme ça, je crois. On a le droit, en fait. On a le droit, faisons. Et puis après, on voit. Et puis si ça nous plaît ou pas, ça, c'est secondaire.
Entièrement d'accord avec toi. Je propose qu'on écoute maintenant Tchoukadan. Alors, le titre, c'est La Terre, c'est ça ?
L'Atterré,
pardon. Oui, L'Atterré.
Jarre millénaire sur l'océan d'opale, d'où vient palpiter clair la vague gris métal, le sang du sédiment qui de sa mécanique dissémine lentement la veine granitique. Au seuil, un saule seul sur la berge anonyme. Du linceul transperce de sa cime le ciel aux airs si doux, pourtant alimentant tant et si bien ce tout. À la goutte du temps, au-delà du reflet des peurs et des voilées, l'éclat d'écume d'ambre méandre du passé, je me rencontre, écoute ce qui du fleuve est né. De fondille d'illusion, embrasser la blessure de l'enfance en chanson, et que la joie, l'essence danse en toi et moi. D'un rude mois de mai, que l'on fend une voix.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs. Radio-libertaire.net, l'émission Les Oreilles Libres est consacrée aujourd'hui au collectif Mineurs de Fond. Alors Vincent Duchosal, on change totalement d'esthétique avec Tchoukadan qu'on vient d'écouter.
Oui.
Et c'est un duo plutôt orienté vers la chanson. Peux-tu nous parler de ton acolyte, de ses textes et de la façon dont vous avez créé ce duo?
Oui, alors Paolo Gauthier qui écrit les textes, qui écrit aussi même des chansons, la musique inclus. Donc on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années et on a commencé à jouer ensemble des balades de jazz, ensemble tout simplement, à passer des soirées à ça et on a rapidement improvisé, on a pas arrêté d'improviser en dialogue les deux guitares, en essayant de mêler les sons, en fait, une sorte de mode d'improvisation où on peut plus distinguer qui fait quoi, il n'y a pas forcément de soliste et d'accompagnateur. Et c'est là-dessus que Paolo aussi a été inspiré pour écrire quelques chansons. Et on a commencé donc à mêler ça avec les guitares classiques et les guitares électriques, où on avait aussi la volonté de faire de l'improvisation plus, disons, que électrique, avec des effets, plus d'ambiance aussi. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a fait des concerts, en fait. Il n'y avait jamais un concert identique, puisqu'on remaniait à chaque concert, on remaniait la setlist, on remaniait notre manière de jouer. Et on a inclus ensuite la notion de conte, ou ce qui est dans l'album qu'on a sorti il y a quelques mois, un mode de parole où on va essayer d'être dans la langue parlée, l'écho avec les guitares et avec des sons concrets et qui vont vers des pièces assez hybrides en fait, qui vont par plusieurs chemins. Donc actuellement, on est dans ces trois médias-là, c'est-à-dire l'improvisation, la chanson et le conte. Ça fait vraiment partie de notre duo.
Ouais. Et alors, donc, si j'ai bien compris, vous jouez de la guitare classique vous jouez de la guitare tous les deux,
ouais.
Classique ou électrique ou...
Ouais.
Ah ouais, c'est ça. Ouais. Et vous, est-ce que vous chantez tous les deux aussi?
Oui, tout à fait.
Ah ouais, il me semble bien.
Et là encore sur le premier album, il y a encore peu de parties à deux voix, mais on est en train de préparer déjà un deuxième album et on va vraiment essayer d'être à l'équivalence presque au maximum à deux voix.
Ah oui. Ah super. Alors, je voudrais savoir dans quel sens, comme vous l'indiquez sur votre site, cette aventure musicale est-elle redevable à Jean-François Vrau et Albert Marqueur que nous avons reçus dans notre émission, ainsi que Edgardo Cardozo ou Benjamin Collin?
Au début de nos écoutes, quand je te disais qu'on jouait des balades de jazz, on écoutait beaucoup un duo d'Edgardo Cardozo et Juan Quintero, un magnifique duo acoustique avec des guitares acoustiques et du chant. D'ailleurs, je vous invite à écouter le dernier album d'Edgardo Cardozo qui est magnifique. Ouais. Donc ça nous a beaucoup inspiré, cet aspect-là, donc un guitariste argentin avec des arrangements qui sont vraiment presque impressionnistes mais avec une sorte de patte vraiment très personnelle. Donc ça, on l'a écouté en boucle et ça nous a vraiment donné envie de dialoguer à notre manière à nous. Et Jean-François Vrau, c'est quelqu'un que moi j'écoute depuis plusieurs années, et Paolo le connaît aussi, a beaucoup écouté. Il y a cette notion-là aussi de dialogue entre l'instrument acoustique, l'improvisation, la manière de raconter une histoire, et de trouver aussi des sons avec son instrument qui peuvent faire du figuralisme, comme aussi aller dans un autre univers, enfin qui sont vraiment, qui nous ont beaucoup touchés, cette poésie nous touche beaucoup. Mmh. Albert Marqueur, pareil, il y a un petit clin d'œil dans l'album à Albert Marqueur parce que c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré dans sa manière de rendre rythmique le texte, de le rendre complètement musical, presque comme une batterie, presque comme un instrument de percussion. Donc toutes ces personnes-là nous ont inspiré pour différentes raisons et en fait on en fait notre mix aussi à nous avec notre sensibilité.
Ouais. Alors le disque Le Vent de Face est-il construit à la manière d'un voyage? J'ai l'impression que c'est un peu ça, mais c'est un peu bateau de dire ça comme ça,
mais ça
marche. Ce que je voulais savoir, c'est si les morceaux sont en résonance les uns avec les autres à la manière d'un album concept, si tu veux, ou sont-ils complètement indépendants, quoi?
Il y a les deux, en fait. C'est ça qui rend la chose un peu... Il y a les deux. C'est-à-dire qu'on a un écho entre deux phases d'improvisation, celle qui ouvre l'album et celle qui est juste avant la fin de l'album. On a des improvisations qui sont d'une part acoustiques et l'autre sera complètement électrique. Et entre tout ça, on a des chansons, parfois qui s'enchaînent avec des petites phases d'impro qui font que les chansons s'enchaînent les unes après les autres. Mais il y a quand même trois morceaux qui sont en format chanson, disons, plus classique, où il y a un début, une fin, et on passe à la chanson suivante. C'est pour ça que ça crée un album qui est assez hybride aussi par rapport au format. Et là-dedans, il y a un grand conte, Affabulation picturale, qui mêle un peu tout ça, finalement. Donc je pense qu'en écoutant l'album, on peut être surprise ou surpris un peu du parcours qui parfois fait écho à ce qui s'est passé avant, mais parfois qui s'en détache complètement et qui raconte autre chose. Donc voilà, il y a une sorte de structure narrative, mais pas pensée de A à Z tout le temps. C'est-à-dire qu'on a laissé aussi, on a voulu laisser les choses s'enchaîner et voir ce que ça pouvait nous raconter après coup finalement.
Alors, Thibaut, je t'ai pas parlé dans ton quintette. Vous avez également sorti un album. Je voulais savoir en gros si les mineurs de fond, donc votre collectif, si c'était comme un label. Est-ce que vous sortez, comment vous sortez vos disques en fait?
C'est un peu nos préoccupations du moment. Pour l'instant, on les sort. C'est souvent des disques autoproduits. Ouais, moi, pour le quintet, j'avais trouvé un label parisien qui s'appelle Parallel Records, qui m'avait beaucoup aidé à ce moment-là parce que j'étais assez jeune. Parce que l'album, je l'ai enregistré il y a 6-7 ans, quelque chose comme ça. Il y a du temps qui a passé maintenant. Il est sorti plus tard, mais bon. Mais là, justement, avec le collectif, on a monté notre label récemment.
Ah oui,
on a pas de sortie encore dessus ou...
Sur le label, non, pas
sur
encore.
Le label, pas encore.
Mais avec le collectif, Chukadan et Colm sont officiellement de l'association Collectif Mineur
d'accord.
de Fond. Ouais.
Et les disques sont numérotés justement
c'est
dans
ça.
Ce sens-là.
On a dans le catalogue, ouais.
Et le label s'appelle le label Azurite.
Voilà.
Et je pense qu'il y aura des choses courant 2022, j'espère.
C'est ça.
C'est un peu le timing qu'on s'est donné.
Et ce label-là, donc, qui serait commun au collectif Mineur de Fond et à une association qui s'appelle la Dose Compagnie,
ouais.
avec laquelle on... Pareil, qui est très poreuse au collectif Mineur de Fond. Une association, pour l'instant, qui a fait jusqu'à maintenant de l'art théâtre musical,
ouais.
qui va aller vers d'autres horizons beaucoup plus larges. En tout cas, le projet de label Azurite s'est posé avec cette association-là de copains et de copines.
Ouais.
Donc, effectivement, sans doute en 2022, on va avoir du nouveau sur le label.
Bon, bah, très bien. Bonne nouvelle. Alors, on va encore une fois, et on vous en remercie. Moi, j'aime bien les émissions comme ça, changer de style complètement avec Chukadan. Ah non, avec Madame Ramdam, pardon. Et le morceau s'intitule Ronda. Voilà, c'était Madame Ramdam Ronda. Alors, Thibaut, Madame Ramdam est un groupe dans l'esprit festif, je ne sais pas si c'est ça l'idée, dans l'esprit du bal, de la danse. Est-ce que tu peux nous parler de ça, nous dire les musiciens, enfin, n'a jamais oublié les musiciens qui jouent, et je veux savoir si tu joues du piano dans ce groupe.
Hein, Thibaut ?
Alors, Madame Ramdam, c'est un groupe ouais, de bal, on aime bien dire ça, ou alors on dit que c'est un... groupe de, c'est un jukebox international. En gros, vous allez dire qu'on tourne un peu en rond, mais à la batterie, c'est Benoît Joblot. Au chant, c'est Paolo, que vous avez entendu dans Tchoukadan avant, là. Et aux percussions aussi. Et le saxophoniste, c'est Pierre-Marie Lapran, qui est dans le quintet. Ouais. Donc voilà, c'est un peu...
C'est un collectif, quoi.
Ça se mélange bien. Ouais.
C'est ça, ça se mélange bien. Et moi, là, je suis à l'accordéon.
Ah bah oui, il me semblait bien.
Il me semblait bien aussi. C'est notre groupe de bal qui est, je pense que j'y pensais en, là juste en écoutant, je pense que c'est le groupe le plus vieux du collectif.
Ah oui.
Parce que je pense que ça doit bien faire 10 ans qu'on joue.
Ah ouais.
Je pense un truc comme okay. ça. On avait commencé parce que ça a été Julien Boutin qui était à l'époque en charge plus ou moins du Festival des Nuits d'été, qui avait organisé un bal avec Fantasio. Et du coup, il nous avait proposé de monter quelques chansons avec Fantaz. Et donc ça a été chouette. Et puis c'était un moment où on était entre le lycée juste après. Donc on faisait de la musique jusqu'à très tard dans la nuit. Et puis à un moment donné, on s'est dit, bah en fait, c'est l'occasion peut-être de monter un groupe de bal. Donc voilà. Et puis donc là, ça, c'est une composition, par exemple, de Benoît Joblot. Dans ce groupe, il y a aussi beaucoup de reprises. De plus en plus de musique traditionnelle du centre de la France, Auvergnate, Bourré, Mazurka, tout ça, assez inspiré justement de Jean-François Vreau. La soustraction des fleurs, notamment des groupes comme ça, avec Fred Aurier, avec Sylvain Lemaître, où il y a un peu ce goût-là des musiques traditionnelles, et en même temps, en les ouvrant un peu plus à des sonorités qu'on utilise aussi en improvisation ou quoi, même si on se rend compte que traditionnellement, ils le faisaient déjà en fait beaucoup, il y a vraiment ce goût du son, du bruit, de la chose qui vibre. Voilà, donc c'est un peu dans cette lignée-là. Et puis après, ça va être aussi un groupe où, si un jour vous nous croisez, on pourra vous jouer du Madison, ça dépendra de l'âge que vous avez. On pourra jouer de la trap, on pourra jouer du rockabilly, on pourra jouer des milongas. On jouera une petite balade de Gainsbourg et puis on finira par un morceau techno-trance qui durera 45 minutes. Enfin, voilà, c'est notre groupe d'été, c'est notre groupe de fête. Et c'est un groupe où on met toutes les chansons qu'on aime. Là, par exemple, on se retrouve début juillet pour un concert au Festival de l'Arpenteur, qui est un très beau festival que je vous conseille, qui est en Isère. C'est en Isère, hein ?
Oui, aux Avrais.
Aux Avrais, oui. Aux Avrais, une super programmation. Donc là, on se retrouve. Donc ça fait une petite année qu'on n'a pas joué, bon, en plus à cause de la période compliquée. Mais ça fait un an là, qu'on s'envoie des nouveaux morceaux, puis on a 4 jours, on va monter toutes les nouvelles chansons qu'on a découvertes cette année. Donc voilà, là, notre batteur, par exemple Benoît Joblot, il est dans un groupe qui s'appelle La Pêche, c'est un groupe des Balkans, donc je pense qu'on va monter 2-3 morceaux des Balkans, enfin super. Voilà, c'est le jukebox à nous quoi.
Ah super, et je me demandais, est-ce qu'il y a un groupe où vous jouez ensemble, en fait vous pouvez vous saquer ou tout
nous deux.
Bah c'est fini, ouais,
ça
voilà.
Fait... Il y en a ça plein fait un moment qu'on se le dit.
Mais c'est vrai.
Non, avec Vincent on n'a pas de groupe. Après souvent, par exemple avec Madame on invite Vincent quand on peut jouer avec nous quelques morceaux. Cet été, notamment le 15 août, là, pour notre festival, c'est sûr qu'il viendra jouer. Mais non, on n'a pas...
On n'a pas de groupe actuellement.
On n'a pas de groupe actuellement, temps, ouais.
C'est vrai. Ça fait longtemps que j'ai envie qu'il y ait un truc qui se fasse.
Ouais, bon, un quartet qui parlait, ouais. Avec un piano préparé aussi.
Ouais.
Bon, bah, ça va se faire. Alors, il y a un autre projet dont le collectif Mineur de Fond, dont je ne suis pas certain d'avoir tout compris de quoi il s'agit, c'est Klang. Est-ce que vous pouvez nous dire ?
Oui, bien sûr. Alors, Klang, donc, c'est un projet qui est porté et qui a été porté par Violette Gillet. Donc, qui, elle, a fait des études dans la photographie et qui a organisé en 2018... une première édition un peu de cet événement. L'idée, c'est de faire se rencontrer les arts visuels et la musique expérimentale. Ouais. Donc, par exemple, en décembre 2018 à Bastille, elle avait lancé le thème du jardin et de la rencontre amoureuse. Et donc, elle a fait des commandes à des compositeurs, compositrices sur le thème pour occuper l'espace au même titre que les œuvres visuelles. Donc il y a eu des œuvres originales, notamment Thibaut qui a participé, il y a eu Timothée Coste, il y a eu Pierre Juillard, il y a eu Louise Volkmann. Et donc voilà, c'est un cycle qui mêle musique, matière sonore et matière visuelle. Et la première forme qu'elle a prise, c'était donc sous forme d'une exposition.
Ah oui, d'accord.
Donc ça a vocation potentiellement d'être un cycle et qu'il y en a une autre édition.
Oui, oui, je pensais matière visuelle, je pensais à des films, moi, en fait, ou de la vidéo.
Il y avait des éléments de vidéo, effectivement, aussi. Il y avait plusieurs médias.
Mais ça peut être aussi des arts plastiques.
Tout à fait.
Ah ouais, super, ouais. D'accord. Ouais.
Des installations ou quoi,
Alors, quand tu as parlé du conservatoire au Danemark, de l'école au Danemark, j'ai pensé à Timothée Coste qui nous a...
Ah bah oui. Ouais, ouais. Bah, Timothée, on se connaît très très bien.
Ouais.
J'ai même vécu avec lui pendant 2 ans. Donc,
ouais, bah d'accord. Ouais.
Mais lui, il est passé aussi à Copenhague, effectivement. Il a passé un bon bout de temps, d'ailleurs.
Ouais. Et alors, Thibaut, il y a aussi, vous venez de citer Louise Volkmann. Peut-être on peut dire un mot de Léon Sauvage.
Oui, Léon Sauvage, Big Band Sauvage, qui a laissé des traces à Paris pendant 2-3 ans quand elle habitait à Paris. Big Band de Free, en gros, où il y avait pas mal de gens de 2035 à la base aussi, qui sont partis ensuite, mais bref, il y avait un joyeux bordel. Maintenant, Louise, elle est rentrée en Allemagne, donc je pense que Léon... Moi, j'avais joué dans sa formation aussi, Léon Sauvage, à Copenhague, parce qu'elle y était aussi. Mmh. Et maintenant, elle est à Cologne, et je crois qu'elle a remonté un nouveau Léon Sauvage là-bas. Mais si ça vous intéresse, il y a un album qui vient de sortir, qu'on avait enregistré à Copenhague. Voilà, avec aussi pas mal de chanteurs. Il y a un chanteur portugais, il y a un chanteur islandais. Il y a des danseuses, enfin bon, bref, voilà, c'est assez marrant.
Très bien, très bien. On écoute un deuxième morceau de Madame Ramdam, c'est Zoa.
Comme artisan d'être distancé à l'étrangeté. Comme nulle part auparavant, comme nulle trop plus tard, peut-être libre en devenir en pointillé après le vagabond d'âme. Pas du tout fou, point, 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 pas mou, loup, pas. Madame Lomba, le bac, baille, tombe, elle a le malade. C'est bien sans zélé, je suis oiseau rare et rare. Elle a, qui n'a que faire des grandes migrations du monde des murs, là où l'on s'échine à sa propre chaîne. Thank you.
Voilà, c'était Madame Ramdam. Alors, il y a un autre projet du collectif Mineur de Fond. Il s'agit de Terra Mare de Paolo Gautier. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, Terra Mare, donc, c'est le solo de Paolo Gautier, qui, en fait, va peut-être pas rester dans le collectif. Paolo avait comme projet aussi de le rendre autonome et en dehors des projets du collectif. Ouais, en d'accord. Tout cas, cet album qui vient de sortir, c'est des textes et la musique de Paolo, dans lequel il invite aussi des musiciens et des musiciennes autour de ses compositions. Il a enregistré dans une chapelle à Montclar-sur-Gervanne, dans la Drôme, avec un instrument qui a été construit par Laurent Huchard, luthier que ma guitare. Une guitare, voilà, une guitare acoustique avec une partie harpe. Et donc ça donne un son incroyable et qui va très bien à l'univers poétique de Paolo. Donc pareil, je vous invite à checker ça sur internet, ça devrait bientôt être disponible. Et ça s'appelle donc Terra Mare, L'Urvec de Paolo Gautier. C'est ça le nom de l'album.
Alors on va écouter Yolande, est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau groupe, me semble-t-il ?
Tout à fait, nouveau groupe, donc porté par Étienne Renard, donc avec Baptiste Thiébaud à la batterie, Pierre Durand à la guitare et moi-même à la guitare. Étienne étant contrebassiste et ses compositions. Mais donc Étienne a fait un petit brief à Thiébaud, donc il pourra peut-être vous lire un peu de ses idées.
Ouais, ce qu'il m'a écrit, c'est ce qu'il souhaitait dire en deux mots, c'était que c'était vraiment un groupe rock. Noise, en gros, c'est toutes ces envies rock noise avec un peu de folk parce que Étienne adore la folk. Il a d'ailleurs remonté un groupe de folk avec Vincent aussi. Donc là, c'est vraiment rock noise et en fait, je pense que, enfin, ce qu'il dit, c'est que la guitare électrique, c'est quelque chose de très important pour lui, même si lui, il est contrebassiste et bassiste. Et du coup, c'est un peu son obsession, la guitare. Du coup là c'est voilà, un groupe à deux guitares où il met toutes ses influences rock. Je sais qu'il a beaucoup écouté le groupe D-Roof notamment.
Ah oui, ouais.
Et plein d'autres. Voilà, Yolande.
Et en même temps il y a aussi autant du D-Roof qu'un côté plus scène new-yorkaise, Tim Burn par exemple, où il y a une vraie inspiration dans les compositions et l'envie d'aller vers aussi ces couleurs là en fait, voilà.
L'énergie brute, l'agressivité.
Très bien, ça nous fait plaisir, ça aussi. On aime beaucoup. Yolande.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui au collectif Mineurs de Fond, avec Vincent Duchosal et Thibaut Gomez. Alors, Vincent, je crois que j'ai pas dit le nom du morceau, je ne sais pas le nom du morceau en fait.
Donc c'est I am JPM,
ouais.
Je suis Jean-Pierre Mariel,
d'accord.
En référence aux acteurs, le film de Bertrand Blier.
Ah, voilà, super.
Je suis Jean-Pierre Mariel.
D'accord. Et alors, il me semble avoir vu sur Internet qu'il y avait un EP, comme on dit, de Yolande.
Oui, alors effectivement, il est sur le Bandcamp du collectif. Étienne et nous, d'ailleurs, n'avons pas fait de communication là-dessus. Je ne sais pas, il faut que je voie le patron, voir si on en parle un jour. En tout cas, effectivement, vous pouvez secrètement, vous le dites à personne, aller sur la page Bandcamp du collectif Mineurs de Fond pour écouter cette EP secret, du coup.
Ouais. Alors, notre émission va bientôt toucher à sa fin. Je voudrais savoir, est-ce qu'on a tout dit du collectif Mineurs de Fond? Est-ce qu'il y a des groupes, des projets dont on n'a pas parlé ou qui vont se créer ou...
Le festival,
ouais.
On monte cette année notre première édition du festival,
ouais.
Donc qui aura lieu du 13 au 15 août prochain.
Festival des pantomimes.
Des pantomimes.
Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent, les pantomimes?
La pantomime, c'est une expression de savoyarde de vers chez moi, ou qui veut dire la fête, le boucan. Voilà.
Ah, d'accord.
Donc ça aura lieu sur les communes de Villarogé et Sainte-Foy-Tarentaise, en Savoie, dans la vallée de la Tarentaise. Et donc avec une programmation musicale, théâtrale, qui se clôturera aussi par un grand bal. Et tout ça s'organisera dans des lieux naturels autour du parc de la Vanoise et sur les communes, ça va être splendide.
Ah oui. Et pour vous donner envie alors, de passer du 13 au 15 août vos vacances en Savoie, il y aura un groupe des Balkans, l'Estodrome, il y aura Frédéric Aurier qui jouera tout seul après une balade menée par un guide ou une guide de haute montagne du coin. Et ensuite il y aura Tchoukadan qu'on a écouté dans l'émission, il y aura Touf de Spleen qui est un trio avec Pauline Drac, Lucine Marianne de théâtre, ouais, et Elodie Guibert. Et ensuite, il y aura Siri Birgedal, qui est une chanteuse folk norvégienne. Et ensuite, pour terminer, il y aura le grand bal de Madame Ramdam. Voilà, du 13 au 15 août. Et c'est juste en dessous du parc...
De la Vanoise.
De la Vanoise, voilà, ça. C'est ça.
Ouais. D'accord. Et c'est quoi la ville?
La ville la plus proche, c'est Bourg-Saint-Maurice.
Ah, ok. D'accord.
Et en fait, c'est proche de Tignes et Val-d'Isère également. Et les communes, donc c'est Villarogé et Sainte-Foy. Et donc, on va bientôt communiquer dessus. Il va bientôt y avoir un post sur Facebook et sur le site du collectif Mineurs de Fond.
Mmh. Bah très bien, merci pour ces bonnes idées de vacances.
Avec plaisir.
Avec plaisir, on fait tout dans ce collectif de toute façon.
Et Vincent, peut-être, tu sais, on avait reçu Maëlys Maron.
Oui.
Tu l'as un petit peu évoqué. Vous aviez fait un duo ou plusieurs duos,
ouais,
je ne sais
duo,
plus, pour
ouais.
un duo.
Elle avait fait un cycle de duo en fait.
Voilà, un cycle de duo avec des compositeurs, je crois, qu'elle avait composé pour vous.
Alors là la première, les Pianos Sauvages, donc c'est bien Maëlys qui a composé les trois pièces, une pour vibra, une pour basse et une pour guitare,
ouais.
Toujours avec piano.
Ouais.
Et là, effectivement, avec son duo avec vibra, elle a un projet avec lequel elle va commander des pièces par d'autres compositeurs, compositrices. Voilà.
Piano Sauvage, donc c'est un trio, c'est ça?
Piano Sauvage, donc c'était que des duos de sa composition.
Ah oui, c'est ça,
ouais. Et sinon, elle a son projet, disons qu'un grand projet qui s'appelle Phonème.
Eh ben oui, voilà. Donc,
voilà.
C'est là où je voulais en venir.
Ouais.
Elle nous avait parlé que tu avais intégré le groupe.
Et
que le groupe changeait un petit peu d'esthétique, on va dire. Est-ce que vous en êtes où, en fait?
Eh ben, on est sur les derniers préparatifs avant la première date qui aura lieu le 22 juillet au Festival Radio France de Montpellier.
Mais génial. Ouais. Bon, très bien. Alors, avez-vous tous les deux d'autres groupes en dehors du collectif dont vous aimeriez dire quelques mots?
Des groupes. Moi, cet été, il y a un groupe qui s'appelle Sarab, qui est un groupe lidé par Baptiste Ferrandis et Climène Zarkan. Climène Zarkan qui est franco-syrienne, du coup, c'est la musique tissée entre musique traditionnelle syrienne, rock, pop, hard rock aussi, un peu, voilà. Il y aura aussi le projet de Camille Durand, Wanderlust, un projet en grand ensemble. Et j'ai un super projet aussi qui s'appelle Aléis, avec Fanny Lafargue, Benoît Joblot et Juliette Meyer.
Mais oui, bien sûr, mais bien sûr, on en a parlé il y a 2 semaines.
Ah oui, bah super.
Ah oui, oui.
Et voilà, et après plein d'autres choses, vous pouvez aller voir les sites de chacun, chacune.
Et me concernant, il y a Zozio, donc le groupe, le quintet de, inspiré des musiques réunionnaises, avec lequel on va faire une bonne tournée cet été, la fin juillet. Il y a aussi donc un projet de théâtre avec donc Paolo Gauthier, entre autres, qui va se créer au festival Les Nuits d'été vers Chambéry. Et le prochain gros projet, c'est une pièce que j'ai écrite pour l'ensemble 2021 vocal, une pièce pour guitare et chœur, création, qui aura lieu en septembre prochain. Et donc avec aussi derrière un répertoire, un concert de musique solo d'autres compositeurs que moi. J'ai choisi un petit panel, et donc ça va être un concert un peu hybride, un one shot comme on dit.
Ouais. Ouais. Et alors, avez-vous en dehors du festival, c'est quoi le nom du festival déjà?
Les Pantomimes.
Les Pantomimes, bah oui, mineur de fond. avez-vous d'autres dates de concert à nous signaler?
Bah ouais, plein. Allez, plein, parce que ça reprend, alors on est ravis.
Ah bah oui.
Mais si vous voulez croiser un peu de musique, moi je serai à Niort le 1er juillet, le 3 juillet à Saint-Omer, ensuite le 10 juillet au Festival de l'Arpenteur, au Crescent Festival le 15 juillet, à Juan-les-Pins le 18 juillet. Ensuite je pars en Pologne et en Islande, donc ça fait peut-être un peu loin. Et voilà, c'est déjà pas mal. Il y aura une tournée Sarab justement aussi à Bordeaux, Vaour, Pau, début août, là, du 5 au 12 août, Parfum de Jazz, Festival des Monastiers. Ensuite, il y aura le Festival des Mineurs de Fond du 13 au 15 août. Et ensuite, on continue avec le Bateau Jazz. Et voilà.
Ça, c'est le quintet
toutes ces Non, c'est beaucoup Sarab. Ouais, beaucoup Sarab, ouais. Beaucoup Sarab cet été.
D'accord.
Voilà.
Et toi, Vincent?
Oui, alors le 22 juillet à Montpellier pour le Festival Radio France, avec Maëlys et son phonème. Après, du 23 jusqu'au 31, je suis en tournée avec Zozio. On ira à Montpellier, on ira dans les Cévennes au festival Les Caprices de Cabiron. On ira au festival de la Courdenie dans le Morvan. Ensuite, je joue au festival Les Nuits d'été avec le projet donc, de théâtre qui s'appelle Projet Pirate. Donc, ce sera le 6 et 7 août autour du lac d'Aiguebelette. Ensuite, le festival des Pantomimes. Et après, on repartira dans la Drôme avec Zozio courant septembre. Et fin septembre, la création Nuages qui aura lieu, donc pour chœur et guitare électrique, qui aura lieu soit à Chambéry, soit à Aix-les-Bains. Voilà, c'est encore à préciser. Ce sera tout sur le site du collectif et où nos sites respectifs. Voilà.
D'accord, tout sera mis sur vos sites. Baba, bravo, bravo, bravo pour toutes ces activités et ces belles musiques surtout. Merci à vous.
Merci.
Merci à toi.
On va se quitter avec Chukada Namoresque. Le titre du morceau. La semaine prochaine, nous recevons la violoniste Julia Robert. Et bah, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup à vous deux.
Merci Christophe.
Et puis à nos auditeurs, à la semaine prochaine. Salut.